De Maxime Gorki, En gagnant mon pain. Chapitre 1. J'ai une place. Je suis chasseur dans une cordonnerie de luxe, dans la principale rue de la ville. Mon patron est un petit homme rondelé, au visage terreux et dépourvu de caractère, aux dents verdâtres, aux yeux couleur d'eau sale. Je lui suppose la vue mauvaise, et pour m'en assurer, je fais des grimaces. « Ne tords pas ton museau de la sorte !» dit-il d'une voix sourde mais sévère. « Ses yeux troubles verraient donc ?» Cela me chiffonne. Je ne puis me décider à l'admettre. Peut-être le patron n'a-t-il fait que deviner mes grimaces. « Je t'ai dit de ne pas tordre le museau » ordonne-t-il encore plus bas, ses grosses lèvres remuant à peine. « Et puis ne te gratte pas les mains. Tu es employé dans un magasin de premier ordre de la rue principale de la ville, ne l'oublie pas. Les chasseurs doivent se tenir debout à la porte, immobiles comme des statues. » Je ne sais pas ce que c'est qu'une statue, et je n'ose gratter mes bras, qui, jusqu'au coude, sont couverts de taches rouges et de plaies. L'eczéma les ronge impitoyablement. « Que faisais-tu à la maison ?» demande le patron en les examinant. Je réponds à sa question. Il hoche sa tête ronde où les cheveux gris sont collés en couches compactes. Et il dit d'un ton vexé « La friperie, c'est pire que la misère, c'est même pire que le vol. » Non sans fierté, je déclare « J'ai aussi volé !» Alors, posant ses mains sur le bureau comme un chat poserait ses pattes, il me fixe d'un air effrayé et siffle. « Hein ? Toi, tu as volé ?» J'explique comment et pourquoi. « Ah, eh bien, nous admettrons que ce ne sont que des enfantillages. Mais si tu me prends de l'argent ou des bottines, je te fais fourrer en prison jusqu'à ta majorité. » Il a prononcé ces mots très posément. Je prends peur et je me mets à le détester davantage. Au magasin travaillaient, en plus du patron, mon cousin, Sacha Kachirine, et un commis, homme adroit, mielleux, au teint coloré. Sacha portait une petite redingote roussâtre, des manchettes, une cravate, des pantalons à revers. Il était fier et il m'ignorait. Quand mon grand-père était venu me voir, il avait demandé à Sacha de m'aider et de m'instruire. Sacha avait pris un air important et répondu, sans aménité, « Il faudra qu'il m'obéisse. » Posant sa main sur ma tête, grand-père s'était penché vers moi. « Écoute-le, obéis-lui. Il est l'aîné tant par les années que par le travail. » Et Sacha, roulant des yeux, insiste. « Rappelle-toi ce que dit le grand-père. » Et dès le premier jour, il usa sans réserve de son droit d'aînesse. « Kachirine, ne fais pas des yeux en boule de loto !» lui conseillait le patron. « Mais je ne fais rien !» répondait Sacha en baissant la tête. Le patron revenait à la charge. « Ne fais pas ces gros yeux, les clientes te prendraient pour un bouc !» Le commis riait obséquieusement. Le patron avançait ses lèvres de façon hideuse. Sacha, les joues en feu, se cachait derrière un rayon. Ses propos me déplaisaient. Je n'en comprenais pas le sens. Parfois, il me semblait qu'on parlait en langue étrangère autour de moi. Lorsqu'une cliente entrait, le patron sortait les mains de ses poches, lissait ses moustaches et grimaçait un sourire doucereux qui ridait ses joues sans modifier l'étrange expression de ses yeux. Le commis se redressait, appliquait ses coudes au corps et tendait les bras en un geste de respect. Sacha clignotait d'un air craintif, s'efforçait de dissimuler ses yeux bombés. Je demeurais à la porte, me grattant à la dérobée, et je suivais de loin la cérémonie de la vente. Agenouillé devant l'acheteuse, le commis essayait les chaussures, les doigts écartés. Ses mains palpitent, il touche le pied de la femme avec autant de précaution que s'il s'agissait d'un bibelot fragile. Et pourtant, c'est une jambe pareille à une bouteille renversée au flanc rebondi. Un jour, une dame lui dit, avec un frisson et une contraction de la jambe, « Ah, vous me chatouillez !»«
C'est par politesse, » expliqua-t-il, très vite et d'un ton ardent.
C'était amusant de le voir ainsi agité, et pour ne pas rire, je me tournai vers la vitre de la porte. Mais la scène m'attirait irrésistiblement. Les manières du commis me divertissaient par trop, et en même temps, je pensais que je ne saurais jamais jouer des doigts avec autant de précaution, ni chausser des pieds étrangers avec une pareille adresse. Assez souvent, le patron se retirait dans une petite chambre derrière l'arrière-boutique, et il y appelait Sacha. Le commis restait en tête-à-tête avec l'acheteuse. Une fois, après avoir frôlé la jambe d'une cliente rousse, il prit son pied et en baisa le bout. « Ah !» minauda la femme. « Quel polisson vous faites !» Il gonfla les joues et souffla lourdement. « Bouh !» Alors le fou rire me saisit de telle sorte que, craignant de tomber, je m'accrochai à la poignée de la porte. Celle-ci s'ouvrit. Je passai la tête la première à travers la vitre qui se brisa. Le commis me donna des coups de pied, le patron me frappa sur la tête avec sa lourde bague d'or. Sacha essaya de me tirer les oreilles. Le soir, en rentrant à la maison, il m'admonesta sévèrement. « On devrait te renvoyer après des tours pareils. Voyons, qu'y a-t-il de drôle à tout cela ?» Et il m'expliqua que si le commis plaisait aux clientes, le commerce n'en marchait que mieux. Les dames viennent acheter des chaussures même quand elles n'en ont pas besoin, simplement pour voir le commis s'il est agréable. Mais toi, tu ne comprends rien. On perd son temps avec toi. Ce propos m'indigna. Personne ne perdait son temps avec moi, et Sacha moins que personne. Le matin, la cuisinière, femme irascible et malade, me réveillait une heure avant lui. Je nettoyais les habits, les chaussures des patrons et du commis. J'allumais le samovar, j'allais chercher le bois pour tous les poêles, je récurais les casseroles. Arrivé au magasin, je balayais, j'époussetais, je préparais le thé, j'allais porter les paquets chez les clients. Je rentrais dîner. Pendant ce temps-là, les fonctions de la porte étaient remises à Sacha, qui, s'estimant offensé dans sa dignité, m'injuriait.
Profiteur, il faut que je fasse ton travail.
Je m'ennuyais. Je me sentais accablé, habitué que j'étais à une existence indépendante, à vivre du matin au soir dans les rues sableuses de Kounavin, au bord de l'Oka, aux eaux glauques, dans les champs et les forêts. Ma grand-mère et ma camarade me manquaient. Je n'avais personne avec qui parler. La vie m'irritait en me montrant son envers mesquin et menteur. Assez souvent, les clients sortaient sans rien acheter. Alors, tous les trois se sentaient humiliés. En mettant dans sa poche son dernier sourire doucereux, le patron commandait « Kajirine, range les marchandises !» Et il se répandait en paroles injurieuses. « Elle vient flâner ici, la rosse. Ça l'ennuie de rester chez elle, cet imbécile. Alors elle se promène dans les magasins. Ah, si tu étais ma femme, tu verrais. » Sa femme, une créature sèche, au grand nez, aux yeux noirs, tapait du pied en lui parlant et le traitait comme un domestique. Fréquemment, après avoir reconduit une cliente connue avec des paroles aimables et des saluts polis, on parlait d'elle en termes malpropres et obscènes, ce qui me donnait envie de courir dans la rue pour rattraper la femme et lui raconter ce qu'on disait d'elle. Je savais qu'il est d'usage de dénigrer les absents, mais dans ce magasin, les trois hommes traitaient tout le monde d'une façon révoltante, et avec autant d'autorité que s'ils avaient été reconnus supérieurs à tous, et désignés pour juger le monde entier. Très envieux,
Jamais il ne faisait l'éloge de personne et savait sur chacun des histoires scabreuses. Un après-midi, une jeune femme, aux yeux étincelants et aux pommettes d'un rouge éclatant, pénétra dans le magasin. Elle était vêtue d'un manteau de velours, garni au col de fourrure noire. Son visage sortait de la fourrure comme une fleur extraordinaire. Abandonnant sa pelisse aux mains de Sacha, elle parut encore plus belle. Sa fine silhouette se dessinait sous la soie gris-bleu de sa robe. Des brillants scintillaient à ses oreilles. Elle me fit penser à une fée, et j'étais persuadée que c'était la femme du gouverneur elle-même. On l'accueillit avec beaucoup de cérémonie. On s'inclina devant elle comme devant une déesse, et on lui fit 1000 compliments. Les trois hommes se démenaient dans le magasin comme des diables. Leur image se reflétait dans les glaces des vitrines. Il semblait qu'autour de moi, tout s'allumait, fondait et allait prendre un nouvel aspect. Mais lorsqu'elle fut partie, après avoir rapidement choisi de coûteuses bottines, le patron fit claquer sa langue et dit avec un sifflement « Chienne !» « En un mot, une actrice !» ajouta le commis dédaigneux. Et ils se mirent à raconter les aventures de la dame, à parler de ses amants. Après le dîner, le patron allait se coucher dans la petite chambre derrière le magasin. J'ouvrais alors la boîte de sa montre d'or et je versais du vinaigre dans les rouages. J'étais ravie quand il revenait au magasin, sa montre à la main, marmottant d'un air déconcerté. « Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà ma montre qui se met à transpirer. Jamais ça ne m'est arrivé. Elle transpire. Serait-ce mauvais signe ?» Malgré l'incessant va-et-vient du magasin et l'abondance du travail à la maison, je m'engourdissais dans un ennui profond. De plus en plus, je me demandais ce que je pourrais bien faire pour être renvoyé. Des silhouettes couvertes de neige défilent en silence devant la porte de la boutique. On dirait qu'elles ensevelissent quelqu'un, qu'elles accompagnent un mort au cimetière. Mais qu'arrivé trop tard, elles se hâtent pour rattraper le corbillard. Les chevaux tremblent, ils ont peine à se frayer un passage entre les monceaux de neige. Au clocher de l'église, derrière le magasin, une sonnerie lugubre résonne tous les jours. C'est le grand carême. Les coups de cloche me frappent à la tête, sans me faire mal, mais ils m'abrutissent et m'assourdissent. Un jour, j'étais dans la cour à la porte du magasin et je déballais une caisse de marchandises qui venait d'arriver. Sacha apparut et se mit à crier. « Que diable traînas-tu si longtemps ?» Irrité, je le menaçai des tenailles. Je savais que le commis et lui volaient le patron. Il dissimulait une paire de bottines ou de pantoufles dans le tuyau du poêle, puis, en sortant du magasin, il les cachait dans les manches de leur pardessus. J'en étais dégoûté et effrayé. Je me rappelais la menace du patron. « Tu voles ?» demandai-je à Sacha. « Non, pas moi, mais le commis, » m'expliqua-t-il gravement. « Moi, je ne fais que lui aider. Il me demande de lui rendre service. Je suis forcé d'obéir, sinon il me ferait des crasses. » « Le patron, il a été commis lui aussi. Il a chipé lui aussi. Toi, tu ferais mieux de te taire. » Tout en parlant, il se regardait dans la glace et il arrangeait sa cravate d'un geste affecté, les doigts très écartés, à l'imitation du commis. Il ne manquait pas une seule occasion de faire preuve de son autorité sur moi. Il invectivait contre moi d'une voix basse. Il me donnait des ordres, le bras tendu en un geste qui me repoussait. J'étais plus grand que lui et plus fort, mais osseux et gauche, tandis qu'il était trapu, huileux et souple. Dans ses habits à la mode, je lui trouvais un air cossu et important. Mais il y avait en lui quelque chose de déplaisant et de ridicule. Il détestait la cuisinière, une femme bizarre dont on ne pouvait savoir si elle était bonne ou méchante. « Ce que j'aime le mieux au monde, ce sont les combats, » disait-elle, en écarquillant ses yeux noirs et ardents. N'importe quel combat, que ce soit des coqs, des chiens ou des hommes, ça m'est égal. Et quand, dans la cour, pigeons ou coqs se battaient, elle abandonnait son travail et, silencieuse, contemplait la lutte jusqu'à la fin. Le soir, elle nous disait, à Sacha et à moi, « Qu'est-ce que vous fichez là, les gamins? Vous feriez mieux de vous battre !» Sacha s'indignait. « Je ne suis pas un gamin, imbécile. Je suis le deuxième commis. » « Ça, ça ne se voit pas. Pour moi, tant qu'on n'est pas marié, on n'est qu'un enfant. »« Saute, tête de bûche !» Le diable est rusé, et pourtant Dieu ne l'aime pas. Ces propos avaient le don d'exaspérer Sacha. Il la chicanait et elle répondait en louchant dédaigneusement. « Tu n'es qu'une blatte, une erreur de Dieu !» Une fois, il tenta de me persuader de barbouiller de suie ou de cire le visage de la cuisinière endormie, de planter des épingles dans son oreiller, de lui jouer quelques mauvais tours. Mais j'avais peur de cette femme. De plus, elle avait le sommeil léger. Elle se réveillait fréquemment, allumait sa lampe et s'asseyait sur le lit, les yeux fixés dans le vague. Parfois, elle venait près de moi, derrière le poêle, et après m'avoir réveillée, elle me demandait d'une voix rauque « Je ne peux pas dormir, Alexis, j'ai peur, dis-moi quelque chose. » Tout ensommeillée, je lui racontais n'importe quoi, et elle restait là, à se balancer, sans proférer une parole. Il me semblait que son corps brûlant sentait l'encens et la cire, et qu'elle allait bientôt mourir. Peut-être allait-elle tomber à l'instant même, face contre terre. Apeurée, je me mettais à parler très haut, mais elle m'arrêtait. « Chut, chut, sinon ces canailles se réveilleront et croiront que tu es mon amant. » Elle prenait toujours la même attitude pour s'asseoir à côté de moi. Courbée, les bras serrés entre ses genoux pointus. Elle n'avait pas de poitrine, et sous la grossière chemise de toile, on voyait saillir les côtes, pareilles au cercle d'un tonneau. Elle restait ainsi longtemps, sans mot dire. Puis tout à coup, elle chuchotait « Il vaudrait mieux mourir que de s'ennuyer pareillement. » « Et maintenant, dors !» disait-elle, puis elle se redressait et disparaissait sans bruit dans l'ombre de la cuisine. « C'est une sorcière !» déclarait Sacha, quand elle ne pouvait l'entendre. Je lui répliquais « Dis-le-lui donc à elle !»« Tu crois que j'aurais peur ?» Mais il ajoutait aussitôt avec une grimace « Non, je ne le lui dirai pas en face. Peut-être est-elle vraiment une sorcière ?» Colérique et méprisante envers tous, la cuisinière ne me témoignait aucune bienveillance. À 6 heures du matin, elle me tirait par les pieds en criant « Assez ronflé, va chercher du bois, allume le samovar, pèle les pommes de terre. » Sacha se réveillait et geignait « Pourquoi brailles-tu? Je le dirai au patron, on ne peut pas dormir. » D'un pas rapide, elle promenait à travers la cuisine son squelette desséché, tournant vers lui des yeux flamboyants, enfiévrée par l'insomnie. « Erreur de Dieu !» criait-elle. « Si tu étais à moi, je te plumerais. »« Diablesse !» jurait Sacha. Et en allant au magasin, il me disait « Arrangeons-nous pour qu'on la renvoie. Il faudra mettre du sel en cachette dans tout ce qu'elle cuit. Mieux que cela, du pétrole. On la chassera. Pourquoi bailles-tu? Qu'est-ce que tu attends ?»« Et toi ?» Il me jetait avec colère. « Poltron !» Chapitre 2. La cuisinière mourut sous nos yeux. Elle se baissait pour soulever le samovar quand elle s'assit tout à coup sur le plancher, comme si elle avait reçu un coup en pleine poitrine. Puis elle s'écroula sur le flanc, les mains tendues en avant. Du sang coula de ses lèvres. Tous deux, nous comprîmes aussitôt qu'elle était morte. Mais, ligotés par la peur, nous restâmes longtemps à la regarder, incapables de prononcer un mot. Enfin, Sacha se précipita à toute vitesse hors de la cuisine. Ne sachant que faire, j'appliquai mon visage contre la vitre vers la lumière. Le patron arriva, s'accroupit d'un air soucieux, tâta le visage de la femme et dit « En effet, elle est morte. Que faire ?» Et il se mit à se signer, tourné vers la petite icône de Saint-Nicolas, le thaumaturge, suspendu dans l'angle de la pièce. Ses prières achevées, il commanda. « Cachirine, vite, cours avertir la police !» L'agent de police arriva, piétina autour du cadavre, empocha un pourboire et s'en alla. Puis il revint, accompagné d'un charretier. Ils prirent la cuisinière par la tête et par les pieds et l'emportèrent. Lorsque nous nous couchâmes, Sacha me dit avec une brièveté inaccoutumée « N'éteins pas la lampe !»« Tu as peur ?» Il s'enveloppa la tête dans sa couverture et resta longtemps silencieux. La nuit était paisible, comme aux écoutes, et il me semblait qu'on allait sonner le tocsin et que tout le monde allait accourir, saisi de panique et en poussant des cris. Sacha sortit le nez hors du drap et me proposa tout bas « Couchons-nous sur le poêle, l'un à côté de l'autre, veux-tu ?»« Il fait trop chaud sur le poêle !» Après un instant de silence, il reprit « Comme ça a été vite fait, hein ? C'était bien une sorcière. Je ne peux pas m'endormir. »«
Moi non plus. »
Et il se mit à parler des morts qui sortent de leur tombe et jusqu'à minuit errent dans les villes en cherchant l'endroit où ils ont vécu, où ils ont laissé des parents. Les morts se rappellent la ville, mais ils ne se souviennent ni des rues ni des maisons. M'expliqua-t-il à mi-voix. Il faisait toujours plus sombre à mesure que le silence croissait. Sacha souleva la tête et demanda « Regardons ma malle, veux-tu ?» Depuis longtemps, je désirais savoir ce qu'il cachait dans sa malle. Il la fermait avec un cadenas et ne l'ouvrait jamais qu'avec des précautions spéciales. Quand j'essayais d'y jeter un coup d'œil, il m'arrêtait d'une voix brutale. « Que veux-tu, hein ?» J'acquiesçais. Il s'assit sur son lit, et reprenant un ton autoritaire, il m'ordonna de mettre la malle à ses pieds. Il emportait la clé suspendue à son cou avec sa croix. Après un dernier regard aux recoins obscurs de la cuisine, il ouvrit gravement le cadenas, souffla sur le couvercle de la malle comme s'il eût été brûlant. Enfin, il le souleva, et sortit plusieurs chemises et caleçons. Jusqu'à la moitié de sa hauteur, la malle était pleine de boîtes de pilules, de cornets de papier multicolores ayant contenu du thé, des boîtes à sardines et à encaustiques.
« Qu'est-ce que c'est que ça ?»«
Tu vas voir. » Je pensais voir des jouets. Je n'en avais jamais possédé, et si je les traitais avec un apparent dédain, je n'en enviais pas moins ceux qui en avaient. J'étais fort satisfait de ce que Sacha, si sérieux, les aimât aussi, tout en les cachant honteusement. Mais je comprenais cette pudeur. Ouvrant la première boîte, il en sortit une monture de lunettes, qu'il plaça sur son nez. En me regardant avec gravité, il m'expliqua. « Ça n'a pas d'importance qu'il n'y ait pas de verre. Ce sont des lunettes comme ça. »
« Laisse-moi les mettre.
Elles ne vont pas à tes yeux, c'est pour des yeux noirs, et toi, tu as des espèces d'yeux clairs. » Il avait pris un ton de maître, mais soudain, il examina de nouveau la cuisine d'un air craintif. Dans une boîte ayant contenu du cirage, il y avait une quantité de boutons dépareillés. Sacha me dit avec fierté, « Je les ai moi-même tous ramassés dans la rue. » J'en ai déjà 37. Dans la troisième boîte, il y avait de grosses épingles de laiton, également ramassées dans la rue. Puis des talons en caoutchouc, usés ou intacts, des boucles de souliers ou de pantoufles, une poignée de porte en cuivre, un peigne de jeune fille, un manche de parapluie en ivoire cassé et une foule d'autres trouvailles de la même valeur. Au temps où je cherchais hausse et chiffon, j'aurais facilement pu collectionner en un mois 10 fois plus d'objets de cette espèce. le trésor de Sacha m'inspira de la désillusion et un véritable sentiment de pitié. Il examinait chaque chose avec amour, il la caressait des doigts. Ses grosses lèvres s'ouvraient avec une expression d'importance. Ses yeux bombés luisaient, attendris et soucieux, mais ses lunettes lui donnaient un air comique.
« Que fais-tu de tout ça ?»
Il me jeta un coup d'œil rapide et demanda.
« Veux-tu que je te donne quelque chose ?»«
Non, merci. » Visiblement vexé de mon refus et du peu d'attention accordée à ses richesses, il se tut un instant. Puis il dit à mi-voix
« Prends un linge, nous allons tout frotter, il y a de la poussière. »
Lorsque tout fut épousseté et rangé, il se réinstalla dans le lit et se tourna vers le mur. La pluie tombait, on entendait les gouttes qui dégoulinaient du toit. Le vent frappait à la fenêtre. Sans bouger, Sacha reprit.
« Tu verras, quand il fera plus sec, je te montrerai quelque chose au jardin. Tu en auras le souffle coupé. »
Je gardai le silence et me disposai à me coucher. Quelques secondes s'écoulèrent. Tout à coup, Sacha se dressa et gratigna le mur avec ses deux mains en déclarant avec un accent qui me bouleversa.
« J'ai peur ! Mon Dieu, j'ai peur ! Seigneur, ayez pitié de moi ! Mon Dieu !»
Effrayé à en perdre la parole, il me semblait que la cuisinière, me tournant le dos, était debout près de la fenêtre qui donnait sur la cour, le front appuyé à la vitre, comme de son vivant quand elle regardait un combat de coq. Sacha sanglotait, griffant toujours le mur, les jambes agitées de convulsions. À grand-peine, sans regarder autour de moi, comme marchant sur des charbons ardents, je traversai la cuisine et allai me coucher à ses côtés. Après avoir pleuré jusqu'à en être là, nous nous endormîmes. Quelques jours plus tard, à l'occasion d'une fête quelconque, nous ne travaillâmes que le matin. Lorsque, après le dîner, les patrons se furent couchés, Sacha me dit d'un air mystérieux
« Allons !»
Je devinai que j'allais voir la chose qui devait me couper le souffle. Nous descendîmes au jardin. Sur une étroite bande de terre, entre deux maisons, était plantée une quinzaine de vieux tilleuls, aux troncs puissants, ouatés de vert par les mousses. Les branches noires et nues semblaient mortes et ne portaient aucun nid. Ces arbres ressemblaient à des monuments de cimetière. Il n'y avait rien d'autre dans ce jardin, ni buissons ni plantes. La terre des sentiers était compacte et noire, comme de la fonte. Même aux endroits où elle apparaissait sous les feuilles sèches de l'an passé, elle était couverte de moisissures, telle une eau stagnante. Sacha se dirigea vers l'angle formé par la palissade sur la rue, s'arrêta au pied d'un tilleul et, l'air inquiet, il examina les fenêtres troubles de la maison voisine. Il s'accroupit, écarta des mains un tas de feuilles et dégagea une grosse racine, flanquée de deux briques profondément enfoncées dans le sol. Il les souleva et mit au jour une plaque de tôle provenant d'un toit, ensuite une planchette. Enfin, j'aperçus un grand trou qui se prolongeait sous la racine. Alors, Sacha fit flamber une allumette, puis un bout de bougie qu'il planta dans l'ouverture. Il me dit «
Regarde, mais n'aie pas peur !»
Lui-même était visiblement effrayé. Dans sa main, la bougie tremblait. Il avait pâli, ses lèvres s'entr'ouvraient d'une façon déplaisante. Ses yeux devinrent humides. Il cacha sa main libre derrière son dos. Sa terreur me gagna. Avec circonspection, je regardais dans l'excavation sous la racine. Celle-ci formait voûte. Tout au fond, Sacha alluma trois bougies qui remplirent la caverne d'une clarté bleuâtre. Elle était assez vaste, profonde comme un seau, mais plus large, et ses parois étaient entièrement tapissées de morceaux de verre de toutes couleurs et de débris de tassaté. Au centre, sur une éminence couverte de cotonnades rouges, il y avait un petit cercueil, revêtu de papier d'étain, à moitié fermé par une étoffe semblable à du brocart. De dessous ce linceul émergeaient deux pattes frêles et la tête pointue d'un moineau. Derrière le cercueil se dressait un autel, sur lequel était placée une petite croix de cuivre. Trois bougies de cire brûlaient, fixées dans des chandeliers ornés de papier d'or et d'argent, qui avaient enveloppé des bonbons. Les flammes effilées se penchaient vers l'ouverture de la caverne. À l'intérieur luisaient des étincelles, des taches multicolores. Une odeur de cire, de terre et de pourriture tiède me frappa au visage, tandis qu'un arc-en-ciel fragmenté dansait et tournoyait à mes yeux. Tout cela me remplissait d'un douloureux étonnement et calma ma peur. « C'est joli ?» demanda Sacha. « À quoi ça sert-il ?»« C'est une chapelle, » expliqua-t-il. « N'est-elle pas bien agencée ?»« Je ne sais pas. » »« Le moineau, c'est le mort. Ses restes deviendront peut-être des reliques, parce que l'oiseau est un martyr qui a souffert injustement. »« Tu l'as trouvé mort ?»« Non, il était entré dans le hangar. Je l'ai attrapé avec ma casquette et je l'ai étouffé. » « Pourquoi ? Je ne sais pas. » Il me regarda bien en face et redemanda. « C'est joli ? » ?»« Non. » Alors il se baissa vers la caverne, la boucha vivement avec la planchette et le morceau de tôle, assujettit les briques et se leva enfin. Tout en enlevant la boue de ses genoux, il me demanda avec sévérité « Pourquoi ça ne te plaît-il pas ?» C'est dommage pour le moineau. Il fixa sur moi des yeux immobiles comme ceux des aveugles et s'exclama en me donnant un coup à la poitrine. Nigo, c'est par jalousie que tu prétends que ça ne te plaît pas. Tu t'imagines que c'était plus joli chez vous, rue des Cordiers? Je me rappelais mon pavillon chez mon grand-père et répondis avec assurance. Certainement, c'était plus joli. Sacha enleva son veston et le lança sur le sol. Après avoir retroussé ses manches et craché dans ses mains, il me défia. « Si c'est comme ça, nous allons nous battre !» Je n'en avais aucune envie. Accablé d'un ennui épuisant, j'étais gêné en voyant le visage irrité de mon cousin. Il bondit sur moi, me donna un coup de tête en pleine poitrine, me renversa, s'assit à cheval sur moi et s'écria « La vie ou la mort ? » Mais j'étais plus fort que lui, et en outre, très en colère. L'instant d'après, il gisait face contre terre, les mains étendues sous la tête, et il râlait. Effrayé, j'essayais de le soulever, mais il se débattait des bras et des jambes, me remplissant d'une terreur grandissante. Je m'écartai, ne sachant plus que faire. Il leva un peu la tête et me dit « Qu'en as-tu de plus ? Je vais rester couché comme ça jusqu'à ce que les patrons me voient. Je me plaindrai de toi et on te chassera. » Ces propos m'exaspérèrent. Je me précipitai vers la petite caverne. J'arrachai les pierres. Le cercueil et le moineau furent jetés par-dessus la palissade et je saccageai tout l'intérieur. Je piétinai les débris. « Voilà pour toi. Tu as vu ?» Sacha accepta cet acte de révolte d'une manière bizarre. Assis sur le sol, la bouche entrouverte et les sourcils en circonflexe, il me regarda faire sans mot dire. Quand tout fut fini, il se leva sans hâte, se secoua, et, jetant son veston sur ses épaules, il me dit d'un ton calme et menaçant « Maintenant, tu vas voir ce qui va t'arriver. Attends un peu. Tout ça, je l'ai fait exprès pour toi. C'est de la sorcellerie. Hein ? Qu'en dis-tu ? » Je tombai, comme fauché par ses paroles. Un froid glacial envahit tout mon corps. Il s'en alla sans plus me regarder, m'accablant de son impassibilité. Je résolus de fuir la ville le lendemain même, de fuir le patron, Sacha et ses sorcelleries, de m'évader de toute cette existence mesquine et stupide. Le lendemain matin, La nouvelle cuisinière se mit à crier en me réveillant. « Mon Dieu, qu'as-tu donc? Quelle figure !»«
C'est la sorcellerie qui commence, » pensais-je, angoissé. Mais la cuisinière riait d'une façon si communicative que je souris aussi sans le vouloir et me regardais dans sa glace. Mon visage était couvert d'une épaisse couche de suie.
« C'est Sacha ?»«
Non, c'est moi !»
répliqua la fille sarcastique. Je me mis à nettoyer les chaussures. En plongeant la main dans un soulier, j'eus le doigt piqué par une épingle. La voilà, la sorcellerie. Dans tous les souliers, il y avait des épingles et des aiguilles, disposées avec tant d'habileté qu'elles se plantaient dans ma paume. Alors, je pris une cruche d'eau froide, que je versai avec un immense plaisir sur la tête du sorcier, qui n'était pas encore réveillé ou qui feignait de dormir. Cependant, je ne me sentais pas à l'aise. Sans cesse, je revoyais le cercueil et le moineau, les petites pattes grises et crochues, le bec cireux qui pointait lamentablement, et un tournoiement continuel d'étincelles multicolores, comme un arc-en-ciel qui voudrait se former et n'y parviendrait pas. Le cercueil s'élargissait, les ongles de l'oiseau grandissaient, s'étendaient en avant et frémissaient en reprenant vie. Je décidai de fuir le soir même, mais avant le dîner, en réchauffant sur le fourneau à pétrole une marmite pleine de soupe, je la laissai bouillir. Distrait par mes pensées, j'éteignis la flamme et me renversai sur les mains le liquide brûlant. On m'envoya à l'hôpital. Je me rappelle un angoissant cauchemar de l'hôpital. Dans un espace vide, tremblotant et jaunâtre, des silhouettes grises et blanches, couvertes d'un linceul, s'agitaient, bourdonnaient et gémissaient. Un homme très grand, aux sourcils épais comme des moustaches, marchait avec des béquilles, et secouait sa grande barbe noire en sifflant « Je le rapporterai à sa révérence. » Les lits me faisaient penser à des cercueils. Les malades, couchés le nez en l'air, ressemblaient à des moineaux morts. Les parois jaunes vacillaient, le plafond se gonflait comme un voile. Le plancher se mouvait, rapprochant et séparant tour à tour les rangées des couchettes. Tout était angoissant et désespérant. Derrière les fenêtres, les branches sèches des arbres étaient semblables à des verges que quelqu'un aurait agitées. La porte livra passage à un cadavre, fluet et roux. Ses bras courts tiraient son suaire et il glapissait. « Je ne veux pas de fou ici !» Et l'homme aux béquilles braillait à ses oreilles « À sa révérence !» Mon grand-père, ma grand-mère, tout le monde d'ailleurs, m'avait toujours dit qu'à l'hôpital, on faisait mourir les gens. Je considérais donc ma vie comme terminée. Une femme en lunettes, vêtue elle aussi d'un suaire, s'approcha de moi et écrivit je ne sais quoi sur une planchette noire fixée au chevet de mon lit. La craie se brisa et les fragments en tombèrent sur ma tête. « Comment t'appelles-tu ? » me demanda-t-elle. « On ne m'appelle pas. « Mais enfin, tu as un nom. »«
Non. »«
Voyons, ne fais pas le méchant, sinon tu seras fouetté. » Déjà persuadée que je serais battue, je ne lui répondis même pas. Elle souffla comme une chatte, et comme une chatte à pas de velours, elle s'éloigna sans bruit. Deux lampes furent allumées. Dans un coin, quelqu'un proposa. « Si nous jouions aux cartes ?»«
Jouer ?» « Moi qui n'ai qu'une main !»«
Ah, on t'a coupé une main !» Immédiatement, j'en conclus que l'homme avait eu la main amputée parce qu'il avait joué aux cartes. Que me ferait-on à moi avant de me tuer ? Mes brûlures me causaient des élancements qui me torturaient comme si on m'eût arraché les os. Je me mis à pleurer tout bas, de peur et de douleur. Je fermai les yeux pour qu'on ne vît pas mes larmes, mais elle soulevait mes paupières, coulait sur les tempes et glissait dans les oreilles. La nuit vint. Tous s'étendirent sur leur lit,
se cachèrent sous les couvertures. De seconde en seconde, le silence devenait plus profond. Dans un angle, seulement, quelqu'un grommelait.
« Il n'arrivera rien du tout. Lui est un vaurien, et elle, une coquine. »
Si je pouvais écrire une lettre à ma grand-mère pour qu'elle vienne et m'enlève de cet hôpital pendant que je suis encore en vie. Mais il m'est impossible de le faire. Je ne puis me servir de mes mains, et je n'ai pas de papier. Si j'essayais de m'échapper... La nuit s'étendait, comme si elle ne devait jamais finir. Je glisse sans bruit, mes pieds à terre, je m'approche de la porte, elle était ouverte. Dans le corridor, sous une lampe, au-dessus d'un fauteuil de bois, une tête hérissée de poils gris se dresse, entourée de fumée. Elle me regarde, les yeux dardés au fond des orbites noires. Je n'ai pas le temps de me cacher.
« Qui va là? Arrive ici !»
La voix n'est pas méchante. J'avance et je regarde le visage rond, planté de poils courts. Des mèches longues sillonnent le crâne, se dressent dans tous les sens et entourent la tête de petits rayons argentés. L'homme porte à la ceinture un trousseau de clés. S'il avait la barbe et les cheveux plus abondants, il ressemblerait à l'apôtre Pierre.
« Ah, ce sont les mains ébouillantées. Pourquoi te balades-tu la nuit? En vertu de quelle autorisation ?»
Il me souffle au visage et à la poitrine un jet de fumée. D'une main tiède, il me prend par le cou et m'attire à lui.
« Tu as peur ?»«
Oui. » Ici, tout le monde a peur au commencement, et pourtant, il n'y a pas de quoi avoir peur, avec moi surtout. Il n'arrivera rien de mal à personne tant que je serai là.
Tu veux fumer?
Non, ne fume pas, tu es trop jeune. Attends encore un an ou deux.
Et tes parents, où sont-ils? Tu n'as ni père ni mère?
Eh bien, tant pis, on s'en tirera sans eux. Seulement, n'aie pas peur, tu as compris? Il y avait longtemps que je n'avais pas rencontré quelqu'un qui sut rendre sa pensée en paroles claires, d'une manière simple et amicale. J'étais indiciblement heureux de l'écouter. Quand il m'eut ramené à mon lit, je le priai de rester près de moi.
« Si tu le désires, » acquiesça-t-il. « Qui es-tu ? »
« Moi ? Un soldat, tout ce qu'il y a de plus militaire, un soldat du Caucase. » Et j'ai été à la guerre. Ça ne serait pas possible autrement. Le soldat vit pour la guerre. Je me suis battu contre les Hongrois, contre les Tcherkesses, contre les Polonais, tant qu'on a voulu. La guerre, mon ami, c'est une terrible affaire. Tout en l'écoutant parler, je me suis assoupi. Quand j'ouvris les yeux, qu'est-ce que je vis? Ma grand-mère en robe noire. Elle était assise à mon chevet. Debout à côté d'elle, le soldat disait « Eh bien, sont-ils tous morts, hein ?» Le soleil jouait dans la salle. Il y dorait tout. Puis il se cachait et revenait avec sa clarté splendide, comme un enfant qui s'amuse. Grand-mère se pencha vers moi et me demanda « Mon pigeon bleu, ils t'ont torturé ? Je le lui ai dit à ce diable rouge. »
« Je m'en vais arranger tout ça dans les règles, » affirma le soldat en s'en allant.
Grand-mère me dit en essuyant ses larmes,
« C'est une vieille connaissance, ce soldat. »
Je gardai le silence, croyant rêver, mais je ne rêvais pas. Le docteur survint, il pansa mes plaies, et me voilà parti avec grand-mère. Nous traversons en fiacre les rues de la ville. Elle me parle de la maison.
« Le grand-père, il perd complètement la tête. Il devient avare à vous en donner la nausée. Le marchand de fourrure, Clist, lui a dérobé ces jours-ci un billet de 100 roubles qu'il cachait dans son livre d'hymne. C'est son nouvel ami. Ah, c'était joli !»
Le soleil est étincelant. Au ciel, les nuages glissent comme de blancs oiseaux. Nous traversons le Volga. La glace se gonfle et résonne. Ça et là, l'eau jaillit. Sur le clocher, couleur de sang de la cathédrale, les croix dorées rayonnent. Nous croisons une paysanne à la face épanouie. Elle porte une gerbe de rameaux de saule. Le printemps va venir, c'est bientôt Pâques. Mon cœur palpite comme celui d'un oiselet.
Je t'aime beaucoup, beaucoup, grand-mère.
Elle n'en est pas étonnée. Elle me répond tranquillement. C'est parce que je suis de ta famille. D'ailleurs, sans me vanter, je peux dire que les étrangers m'aiment aussi. Grâce à toi, Sainte Vierge. Et en souriant, elle ajoute. Elle sera bientôt heureuse. Son fils va ressusciter. Et Varusha, ma fille à moi, elle n'achève pas. Chapitre 3. Je trouvai mon grand-père dans la cour, agenouillé. Il taillait quelque chose à coups de hache. Levant son outil comme pour me le lancer à la tête, il enleva sa casquette et me salua ironiquement. « Le bonjour à votre noblesse, à votre haute seigneurie. Vous avez fini de travailler? Vous allez pouvoir vivre à votre guise, hein? Ah, vous autres !»«
C'est bon, c'est bon !»
coupa grand-mère, et se débarrassant de lui, elle me raconta, lorsque nous fûmes dans la chambre, les dernières nouvelles, tout en allumant le samovar.
« Maintenant, le grand-père est complètement ruiné. Tout l'argent qu'il avait, il l'a donné à son filleul Nicolas pour le faire fructifier, et sans lui demander de reçu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a tout perdu. Et tout provient de ce que nous n'avons pas secouru les pauvres, ni eu pitié des malheureux. Alors le bon Dieu s'est dit « Pourquoi ai-je donné des biens aux cachérines ?» Il a réfléchi et nous a tout enlevé. Après avoir regardé autour d'elle, elle ajouta « Je fais tout ce que je peux pour attendrir un peu le Seigneur, pour qu'il n'accable pas trop le vieux maintenant. Je fais l'aumône la nuit avec le fruit de mon travail. Si tu veux, tu m'accompagneras cette nuit. J'ai de l'argent. » Grand-père survint, cligna des yeux et s'informa. « Vous avez de quoi vous remplir la panse ?»«
Ce n'est pas toi qui paie, » répliqua grand-mère. « Cependant, tu peux t'asseoir avec nous et manger. » Il s'assit en disant à mi-voix « Donne !» Dans la pièce, tout était à sa place. Seul le côté qu'occupait jadis ma mère était en désordre et abandonné. Au-dessus du lit de grand-père, je vis au mur une feuille de papier portant en grosses lettres imprimées ces mots. « Seigneur Jésus, éternellement vivant, que ton saint nom demeure avec moi tous les jours et toutes les heures de ma vie. »
Qui a écrit ça?
Grand-père ne répondit pas. Après un instant de silence, grand-mère dit, avec un sourire, « Ce papier, il nous coûte 100 roubles. »«
Ça ne te regarde pas !» cria grand-père. « Je donnerai tout ce que j'ai à des étrangers. »
« Tu n'as plus un sou. Quand tu avais quelque chose, tu n'as rien donné à personne. » répliqua tranquillement grand-mère.
« Tais-toi ! »
glapit-il. Ici, rien n'a changé. Tout est resté comme auparavant. Dans un coin, couché dans une corbeille à linge posée sur une malle, mon frère Kolia se réveille et nous regarde. Sous ses paupières, on entrevoit à peine la tache bleu foncé de ses yeux. Il est devenu encore plus fluet, plus grisâtre, plus transparent. Il ne me reconnaît pas. Il se tourne en silence et ferme les yeux. Dans la rue, de tristes nouvelles m'attendent. Un de mes amis, Viakir, est mort. Un coup d'air l'a étouffé pendant la semaine sainte. Un autre, Chahi, est parti demeurer en ville. Yaza a mal aux jambes, il ne peut sortir. En me communiquant ces événements, Kostroma conclut avec irritation « Ils meurent vraiment vite, tous ces garçons !»«
Mais Viakir seul est mort !»«
Qu'importe, quand ils quittent la rue, c'est comme s'ils étaient morts. On vient à peine de se lier, de s'habituer, et voilà le camarade qui est envoyé en apprentissage ou qui trépasse. » « Dans votre cour, chez Tchesnokov, il y a des nouveaux venus, ils s'appellent Evseyanko. Le garçon, Nyusha, est gentil, très adroit. Il a deux sœurs. L'une est encore petite, l'autre, très jolie, boite et ne peut marcher qu'à l'aide d'une béquille. Après un instant de réflexion, il ajouta « Tchurka et moi, nous sommes amoureux d'elle et nous nous disputons tout le temps. »
« Avec elle ?
Mais non, entre nous.
Avec elle, rarement. »
Évidemment, je savais que les grands garçons et les hommes eux-mêmes s'amourachaient d'une fille. Je connaissais même le sens grossier du mot. J'eus pitié de Kostroma. Mal à l'aise, j'éprouvais quelque gêne à regarder ses yeux noirs, pleins de colère, son corps anguleux. Ce même jour, le soir, je vis la fillette boiteuse. Descendant du perron dans la cour, elle laissa tomber sa béquille. Réduite à l'impuissance, elle s'arrêta, toute frêle et mince, sur les marches. Ses mains exsangues s'accrochèrent à la balustrade. Je voulus ramasser la béquille, mais mes doigts bandés étaient malhabiles. J'essayais en vain et j'étais dépité. Elle riait gentiment en haut des degrés. « Qu'as-tu aux mains ?» Je me suis brûlé. « Et moi, je boite. Tu demeures dans cette cour ? Tu es resté longtemps à l'hôpital ?
Moi, j'y suis resté longtemps. »
Après un soupir, elle ajouta « Très longtemps. » Elle avait une robe blanche à pois bleus, usée mais propre. Ses cheveux, bien lissés, formaient une natte épaisse et courte. Ses grands yeux étaient graves. Dans leur paisible profondeur, brillait une petite flamme bleuâtre qui illuminait le visage étroit au nez aigu. Son sourire était agréable, mais il ne me plut pas. Toute sa maladive personne semblait dire « Ne me touchez pas, je vous en prie !» Comment mes camarades avaient-ils pu s'éprendre d'elle ? « Il y a longtemps que je boite. » Elle me fit ses confidences complaisamment avec une sorte de fatuité. « C'est une voisine qui m'a ensorcelée. Elle s'est disputée avec maman et m'a envoûtée pour l'ennuyer. « Tu as eu peur à l'hôpital ?»«
Oh oui. »
J'étais embarrassée auprès d'elle. Je préférais rentrer. Vers minuit, grand-mère me réveilla avec des caresses. « Allons, veux-tu ? Si tu travailles pour les autres, tes mains guériront plus vite. » Elle me prit par le bras et me guida, comme un aveugle, dans l'obscurité. La nuit était noire et humide. Le vent soufflait sans arrêt. On eût dit une rivière qui aurait coulé très vite. Le sable glacé se collait aux pieds. Grand-mère s'avançait avec précaution vers les fenêtres obscures des maisonnettes pauvres. Elle se signait trois fois et laissait sur l'appui de chacune d'elles un sou de cuivre et trois craquelins. Elle se signait de nouveau, jetait un coup d'œil vers le ciel sans étoiles et chuchotait « Très sainte reine des cieux, aide-nous tous. Nous sommes tous pécheurs à tes yeux, sainte Vierge. » Plus nous nous éloignions de la maison, et plus, tout autour de nous, l'obscurité s'épaississait et devenait lugubre. Le ciel nocturne, approfondi à l'infini par les ténèbres, semblait avoir caché à jamais la lune et les étoiles. Un chien accourut, comme une boule, on ne sait d'où. Il s'arrêta devant nous et se mit à hurler. Ses yeux étincelaient dans l'ombre. Peureusement, je me serrai contre grand-mère. « Ce n'est rien, » dit-elle, « c'est seulement un chien. Ce n'est plus l'heure du diable. Il est trop tard pour lui. Les coqs ont déjà chanté. » Elle appela le chien, le caressa et lui dit des mots doux. « Prends garde, petit chien, ne fais pas peur à mon petit-fils. » La bête se frotta à mes jambes et nous partîmes tous trois. 12 fois, grand-mère s'approcha d'une fenêtre en laissant sur l'appui une aumône secrète. Il commençait à faire jour. Les maisons grises surgissaient des ténèbres. Le clocher de l'église Notre-Dame-des-Champs se dressait tout blanc. Le mur de briques du cimetière rougissait comme une natte usée. « Je suis si fatiguée. Je suis vieille, » dit grand-mère. il est temps de rentrer. Demain, les femmes se réveilleront et la Vierge leur aura donné quelque chose pour leur marmot. Quand on manque de tout, on est heureux même de très peu. Ah, Alexis, tant de gens vivent si pauvrement et personne ne se soucie d'eux. Le riche ne pense pas à Dieu, il ne songe pas au jugement dernier. Il n'est ni ami ni frère du pauvre, pourvu qu'il puisse amasser de l'or, que cet or lui devienne un enfer de charbons ardents. Voilà ce que c'est. Il faut vivre les uns pour les autres, et que Dieu veille sur tous. Et je suis contente que tu sois de nouveau avec moi. Moi aussi, j'éprouve une joie paisible. Je sens vaguement que je viens de participer à quelque chose que je n'oublierai jamais. À mes côtés, tremble le chien fauve au museau de renard, aux bons yeux, à l'expression craintive. Il restera chez nous? Mais oui, il restera s'il le veut. Je vais lui donner un craquelin, j'en ai encore deux. Viens, asseyons-nous sur un banc. Je me sens très fatiguée. Nous prenons place sur un banc près d'un portail. Le chien se couche à nos pieds et croque un craquelin sec. Et grand-mère raconte. Ici demeure une juive qui a 9 enfants, tous plus petits les uns que les autres. Je lui demande, « Comment peux-tu vivre, Moïsevna ?» Et elle me répond, « Je vis avec mon Dieu, avec qui vivrai-je, sinon avec lui ?» Je me serre contre le flanc tiède de grand-mère et je m'endors. De nouveau, la vie s'écoule, rapide et agréable. Le large torrent des impressions apporte chaque jour à l'âme quelque chose de nouveau, qui la ravit et l'inquiète, qui l'humilie, qui l'oblige à méditer. Bientôt, moi aussi, je fis tous mes efforts pour voir le plus souvent possible la petite boiteuse, pour lui parler, pour m'asseoir à côté d'elle en silence sur le banc du portail. En sa compagnie, tout était agréable, même le silence. Proprette comme une tourterelle, elle savait fort bien raconter comment vivent les Cosaques au bord du Don. Elle avait longtemps habité là-bas chez un oncle, un machiniste. Puis son père, un serrurier, était venu se fixer à Nijni Novgorod. Et j'ai encore un autre oncle. Celui-là est au service de l'empereur lui-même. Au jour de fête, le soir, toute la population de la rue sortait au portail. Jeunes gens et jeunes filles se rendaient au cimetière pour y danser des rondes. Les hommes disparaissaient dans les cabarets. Il ne restait plus dans la rue que les femmes et les petits-enfants. Les femmes s'installaient sur le sable ou sur les bancs et menaient grand vacarme en se disputant continuellement. Les marmots se mettaient à jouer aux billes ou à d'autres jeux, surveillés de loin par les mères qui encourageaient les enfants ou se moquaient des mauvais joueurs. Le bruit était assourdissant, mais la gaieté débordante. La présence et l'attention des grandes personnes nous excitaient, nous qui étions sans importance, et donnaient à tous nos jeux une animation spéciale, une rivalité passionnée. Mais si fort que le jeu nous entraîna, Kostrona, Tchouka et moi, à chaque instant, au moindre prétexte, l'un de nous trois courait raconter ses prouesses à la petite boiteuse. « As-tu vu, Lyudmila, comme j'ai rossé les 5 pantins qui venaient de la ville ?» Elle souriait affectueusement et secouait la tête plusieurs fois de suite. Auparavant, notre bande tâchait de rester groupée dans tous les jeux. Maintenant, je remarquais que Tchourka et Kostroma jouaient toujours dans des camps opposés, rivalisant d'adresse et de force, souvent jusqu'aux larmes, jusqu'aux coups. Une fois, ils se battirent avec un tel acharnement que les grandes personnes durent intervenir et asperger d'eau les combattants. Assise sur le banc, Lyudmila tapait le sol de son pied intact, et quand les ennemis arrivaient jusqu'à elle, elle les chassait à coups de béquilles en criant d'un ton plaintif « Finissez !» Son visage était si blanc qu'il en avait des reflets bleus. Ses yeux s'éteignaient ou semblaient sortir de l'orbite. Une autre fois, Kostroma, ayant honteusement perdu une partie de bille, gagnée par Tchurka, alla se cacher derrière le coffre à avoine de l'épicier voisin. Là, il s'assit et se mit à pleurer en silence. Le spectacle était presque effrayant. Les dents serrées, les pommettes saillantes, son visage osseux semblait pétrifié, et de ses yeux noirs maussades roulaient de grosses et lourdes larmes. J'essayai de le consoler. Il murmura, la voix entrecoupée de sanglots. « Attends, je lui enverrai une brique à la tête. Il verra. » Tchurka devenait agressif. Il marchait au milieu de la rue, la casquette sur l'oreille, les mains dans les poches, comme le faisaient les jeunes gens en âge de se marier. Il s'exerçait à cracher à travers les dents et assurait « Je saurai bientôt fumer. Deux fois déjà j'ai essayé, mais je fus malade. » Tout cela me déplaisait. Je voyais que je perdais mes camarades et il me semblait que Lyudmila en était la cause.